écrit de Madame de Staël, deuxième période. Peu de temps après la publication des lettres sur Rousseau, commença la Révolution française. Madame de Staël avait déjà rendu dans cet ouvrage un hommage éclatant à la liberté. Et l'amour de la liberté l'avait enflammé dès son jeune âge. Placée près du centre de l'action, s'élevant par son esprit à la hauteur de tous les principes, et atteinte dans ses sentiments par tous les résultats, ni son caractère, ni sa destinée ne lui permettaient de demeurer étrangère au mouvement général. Quand toutes les têtes étaient exaltées, ce n'est pas la sienne qui pouvait rester froide. Elle admirait la constitution anglaise autant qu'elle chérissait la France. L'idée de voir les Français aussi libres que les Anglais, de les voir placés au même niveau pour tout ce qui assure les droits et relève la dignité de l'espèce humaine, devait répondre à ses vœux les plus ardents. Et, quand on songe qu'à cette perspective s'ajoutait l'espoir que son père contribuait à un tel bien et en recueillerait la reconnaissance, on ne peut s'étonner de son enthousiasme. Tout ce qu'il y avait de vif dans son cœur et dans ses pensées la portait sur la même route, et elle allait plus loin que son père dans cette route, comme pour s'exposer à recevoir le premier choc. Toutefois, la modération que commandait à M. Necker et son caractère et ses hautes lumières fut bientôt imposée à Mme de Staël par son respect pour le malheur. D'après l'ardeur de ses espérances, on peut juger de ce qu'elle éprouva lorsqu'elle vit son attente trompée. Avec un sentiment de pitié tellement vif, même avec les indifférents, qu'il était une douleur personnelle, avec une aversion pour la tyrannie qui soulevait toutes les puissances de son âme, le règne de la terreur fut pour Madame de Staël particulièrement épouvantable. Parmi ceux qui n'ont pas eu à déplorer la perte des premiers objets de leur attachement, nul n'a pu souffrir plus qu'elle. À la plus profonde compassion pour les maux de tous, à d'horribles craintes pour ses amis, se joignait l'idée que le nom de la liberté serait à jamais calomnié, et que celui de son père subirait un pareil sort. Ces deux idoles sur la terre, la liberté et la gloire de M. Necker, semblaient renversées du même coup. Guillemet. « Il me semble, dit-elle, influence des passions, page 115, que les partisans de la liberté sont ceux qui détestent le plus profondément les forfaits qui se sont commis en son nom. Leurs adversaires peuvent sans doute éprouver la juste horreur du crime. Mais, comme ces crimes mêmes servent d'argument à leur système, ils ne leur font pas ressentir, comme aux amis de la liberté, tous les genres de douleurs à la fois. » Fin des guillemets. Aussi, pendant le règne sanglant de Robespierre, Madame de Staël fut hors d'état d'entreprendre aucun travail suivi. Toutes ses facultés étaient absorbées par le désir de dérober des victimes à la mort. Désir sans cesse renaissant, car, lorsqu'elle avait donné asile à un infortuné, elle croyait n'avoir rien fait pour lui tant qu'elle n'avait pas sauvé ses proches. Son dévouement dans ce genre est si connu qu'il est inutile de le retracer, et l'amitié éprouverait une sorte d'embarras à le faire. Défense de la reine, épître au malheur, deux opuscules politiques. La première fois qu'elle retrouva son talent, ce fut pour l'employer à la défense de la reine. On sait, dans ces temps désastreux, ce qu'il fallait de ménagement et d'adresse pour ne pas irriter des monstres sanguinaires. On a même souvent employé alors, dans un bon but, un langage bas et féroce. Mais c'est là ce qui était impossible à Madame de Staël. La tyrannie populaire ne lui était pas plus aisée à flatter qu'une autre. Cependant, comme il fallait se faire entendre des chefs, elle essaya de tous les tons. Elle use de tous les moyens pour trouver le défaut de la peau du tigre et parvenir au cœur de l'homme. Elle cherche à faire oublier la reine pour ne montrer dans Marie-Antoinette que la femme charmante, l'être bon et compatissant, la tendre mère, l'épouse dévouée et courageuse. Il règne un sentiment actif, profond, une pitié ingénieuse et délicate dans cette pièce. Dirons-nous que Madame de Staël n'avait jamais été en faveur auprès de la reine? Eût-elle, ce qui ne se pouvait pas, eût-elle été haïe, proscrite, persécutée par Marie-Antoinette? Elle n'en eût pas fait moins et eût également gémi de ne pouvoir en faire plus. Plus tard, elle épancha la douleur qui l'oppressait dans une épître adressée au « Malheur ». Petit poème bien remarquable par la force et la vérité de l'expression. On a surtout distingué ces vers où elle montre ce que l'idée du désastre universel ajoute pour chaque malheureux aux peines particulières de la vie. De la nature, enfin, le cours invariable, à travers tant de maux, ne s'est point arrêté. La mort, comme autrefois, se montre impitoyable, et l'hymen le plus saint n'en est point respecté. L'amour peut être ingrat, et l'amitié légère, et sous le poids affreux des communes douleurs, nourrissant en secret une peine étrangère, seule, à d'autres chagrins on donne encore des pleurs. Dieu puissant, du malheur, daigne borner l'empire. Après la chute de Robespierre, Madame de Staël a publié à peu d'intervalle deux brochures anonymes, l'une intitulée « Réflexions sur la paix » adressée à M. Pitt et aux Français, et l'autre « Réflexions sur la paix intérieure ». Ces deux écrits, dont le premier a été l'objet des éloges de M. Fox dans le Parlement d'Angleterre, contiennent tout ce que l'auteur osait exprimer de ses idées sur la situation intérieure et extérieure de la France en 1795. Et ce sont, par là même, des monuments précieux pour l'histoire. Sans prétendre discuter les opinions politiques de Madame de Staël, je dirais, relativement à ces deux ouvrages, qui lui ont été dictés par un sentiment impérieux. Les Français, des deux partis, ont pu vouloir la guerre, et l'Europe entière a pu croire être intéressée à sa continuation. Mais il n'était pas dans le caractère de Madame de Staël d'adopter jamais un tel système. Hors de l'intérêt sacré de l'indépendance nationale, il n'était donné à aucun raisonnement de la réconcilier avec l'effusion du sang, et son esprit se mettait toujours au service de son cœur pour prouver la convenance de la paix. On peut en dire autant du second écrit. Indépendamment de son amour pour la liberté, Madame de Staël eut toujours signalé avec effroi la route qui semblait alors, selon son énergique expression, forcée à traverser une seconde fois le fleuve du sang. Quand on donne des conseils pour une position déterminée, on est obligé de transiger avec le mal existant et avec ses conséquences nécessaires. Mais Madame de Staël le fait sans consacrer le mal et sans cesser de le reconnaître pour ce qu'il est. S'il est possible de lire ses écrits avec impartialité, d'évaluer et les circonstances du temps et ce qu'elles exigeaient d'un écrivain, on sera étonné de tout ce qui y est déployé de force d'argumentation, de respect pour tous les intérêts, pour toutes les opinions honnêtes, de candeur et non seulement d'esprit, ce qui va sans dire, mais de solidité et de saine raison. Sans doute, elle ne désirait pas le rétablissement de la monarchie. Mais était-il dans l'ordre des choses possibles que cette même restauration, qui depuis a ramené des jours de liberté et de bonheur pour les Français, eut lieu à l'époque où elle écrivait, sans que de terribles vengeances fussent exercées? Elle n'a pas vu à 20 ans de distance, parce que telle n'est pas la portée du regard humain. Mais dans un horizon plus rapproché, elle a présagé avec une singulière justesse. N'est-il pas bien remarquable, par exemple, qu'en 1795, elle ait dit que la France ne pouvait arriver à la monarchie mixte sans passer par le despotisme militaire. Note. J'avais rassemblé d'autres citations et les phrases que j'avais en vue étaient bien saillantes. Mais peut-être vaut-il mieux, quand on ne retrace pas l'ensemble de la situation, éviter de réveiller des souvenirs douloureux et trop souvent empreints d'injustice. Fin de note. De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations. Quelque abstraite et générale que soit la question traitée dans ce livre, elle n'était point, même au sein du trouble et des inquiétudes, étrangère aux pensées habituelles d'un esprit philosophique comme celui de Madame de Staël. Aussi, quoique les traces de la commotion violente qu'a donnée la Révolution à tous les êtres réfléchissants et sensibles se fassent remarquer dans cet ouvrage, des forces plus grandes y sont déployées, et leur masse entière est en mouvement. Dans les lettres sur Rousseau, on voit une jeune personne étincelante d'esprit, qui agite avec feu, avec sentiment, une foule de questions brillantes, au milieu des applaudissements d'une nombreuse assemblée. Dans l'influence des passions, au contraire, tout porte l'empreinte des méditations solitaires, et de cette effervescence douloureuse que l'exercice de la pensée ne parvient pas toujours à calmer. Le jeune aigle épouvanté par la tempête de la vie cherche un asile et un lieu de repos. Les passions sont déchaînées autour d'elle. Témoin et près d'être victime elle-même de la fureur des partis, elle a sous les yeux une vaste ruine. Les institutions du vieux temps, celles qui les avaient d'abord remplacées, tout a été renversé. La vertu, la raison, la liberté même, au nom de laquelle les passions s'étaient soulevées, ont lutté en vain contre les passions. Madame de Staël cherche donc à analyser ces forces mystérieuses. Elle se demande si les ardentes espérances que les passions excitent se réalisent jamais. Et la réponse est négative. Toujours les passions attendent du sort ou des hommes l'accomplissement de leurs vœux, et mettent ainsi notre bonheur sous une dépendance étrangère. L'amour de la gloire, l'ambition, la vanité veulent atteindre un but qui recule sans cesse. Les affections tendres ont besoin d'une réciprocité qu'elles ne croient jamais obtenir. Et les désirs sensuels ou égoïstes, en desséchant le cœur qu'ils agitent, détruisent le foyer commun de toutes les jouissances. Les passions sont donc le véritable obstacle au bonheur des individus, et elles nuisent aussi à celui des nations. Car, pour un peuple, chez lequel il n'existerait pas de violents désirs, toutes les formes de gouvernement seraient également bonnes. Toutefois, il s'offre ici une distinction fondamentale. L'homme considéré isolément peut toujours aspirer à étouffer ses sentiments désordonnés. Mais on doit regarder les passions comme indestructibles dans l'espèce, et c'est alors laisser le degré d'activité convenable que consiste l'art du législateur. D'après cette différence, l'auteur a divisé son plan en deux parties. L'une qui traite de la destinée des individus et l'autre du sort constitutionnel des nations. La première moitié de ce plan est la seule qui ait été exécutée et elle suffit à former un ouvrage complet. Madame de Staël y a analysé en premier lieu les passions, puis les sentiments, qui tiennent à la fois de la nature des passions et de celle des ressources qu'on peut leur opposer. Enfin, elle examine quels sont les secours contre le malheur qu'on doit chercher en soi-même. L'analyse des passions est admirable. Plusieurs de ces mobiles, qui semblent ne différer entre eux que par d'imperceptibles nuances, sont caractérisés avec des traits si nets et si fermes qu'ils prennent des physionomies parfaitement distinctes. Et les définitions d'idées abstraites deviennent en quelque sorte des portraits d'individus. Un rare talent pour la satire est déployé dans ces peintures. Toutefois, on n'y remarque pas cette gaieté vive et légère qui a brillé depuis chez Madame de Staël. Elle était absorbée par le chagrin à cette époque désastreuse. Un chapitre bien remarquable, c'est celui de l'esprit de parti. le fanatisme politique, son aveuglement, sa folle confiance, sa crédulité, sont représentés par une personne si jeune avec la plus énergique justesse. Et elle a ensuite caractérisé, avec la même précision, les deux grandes classes d'enthousiastes, les novateurs et les défenseurs du passé. Tout est vrai dans ces tableaux et restera tel tant que les mêmes partis existeront encore. Mais quelle effrayante révélation du plus affreux mystère de la nature humaine n'est pas contenue dans le chapitre intitulé « Du crime », mot par lequel elle entend surtout la cruauté. Dans un temps où le crime marchait, déchaîné, l'esprit d'observation n'a pourtant pu suffire à tracer un tel tableau. Il fallait un talent pour ainsi dire dramatique, cette force d'imagination qui, dans un mot, un mouvement, une expression de physionomie, trouve l'homme tout entier, le comprend au point de devenir lui, de revêtir un instant sa nature. Quelle peinture terrible de ce besoin d'enivrement, de cette férocité convulsive, de cette rage intérieure qui pousse sans cesse à de nouveaux forfaits, celui pour qui le repos est devenu un supplice, celui qui se sent haï par ce qu'il est et qui veut infliger aux autres les tourments dont il est lui-même la proie. Et quel trait de lumière jeté sur le cœur humain que ces paroles ! Si l'on pouvait avoir quelque prise sur un tel caractère, ce serait en lui persuadant tout à coup qu'il est absolument pardonné. Voilà, remarquerai-je à l'appui de ce que dit Madame de Staël, voilà une des causes des révolutions morales qu'opère si fréquemment la religion. Elle dit au coupable qu'il est pardonné dans le ciel. Il méprise le reste et recommence à vivre. Madame de Staël considère les passions sous le rapport de leur danger pour le bonheur et non pour la vertu. Elle commence par reconnaître que toute félicité suppose l'observation des lois de la morale. Mais elle ne dit pas aux hommes « Les passions vous rendront peut-être coupables ». Elle leur dit « Les passions vous rendront sûrement malheureux. Pour les êtres que la chance de commettre une faute n'effraie pas avant tout, ce langage a beaucoup de force, en ce qu'il se fonde sur la nature même des choses, sur l'essence immuable des sentiments immodérés, et non sur leurs suites incertaines. Ainsi, quelque base qu'on veuille donner à la morale, cette partie de l'ouvrage aura toujours de l'importance, et les observations curieuses qu'elle renferme ne seront perdues dans aucun système. Toute philosophie usuelle doit viser à rendre la volonté indépendante des passions. Mais, quand Madame de Staël, dans le but de mieux assurer cette indépendance, semble proscrire jusqu'aux affections les plus légitimes, ne dément-elle pas, et son propre sentiment, et la nature ? N'y a-t-il pas un stoïcisme moins âpre à dire que « la douleur n'est pas un mal » qu'à soutenir qu'aimer innocemment n'est pas un bien ? L'amitié, la tendresse paternelle et filiale doivent-elles être sacrifiées à un froid calcul ? Et n'est-ce pas un cruel emploi du talent que de peindre avec un détail frappant de vérité tout ce qui blesse le cœur dans les relations les plus chères ? Le philosophe chrétien a peut-être seul le droit de dissiper des illusions consolantes, mais il faut nous promettre autre chose que cette vie, si l'on veut nous dégoûter de ce qu'elle renferme de mieux. Il n'était pas en général dans le caractère de Madame de Staël de poursuivre aveuglément un principe jusque dans ses dernières conséquences, et elle était ordinairement avertie par un tact très sûr du moment où l'application abusive d'une règle conduirait à en violer une autre. Mais, qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est point par une affectation d'austérité que Madame de Staël a soutenu un tel système, et on peut assez juger que ce n'est point non plus par froideur d'âme. Elle peint en traits de feu le malheur des passions et leur puissance. c'est uniquement aux êtres passionnés qu'elle s'adresse. Les autres n'ont pas besoin de ses secours. Ils n'entendraient pas son langage, et ce n'est pas avec eux qu'elle a des traits de sympathie. Il résulte ainsi de la sévérité de ses conseils et de la chaleur de ses sentiments un singulier contraste, qui vient de ce qu'ayant beaucoup souffert, elle aurait voulu paralyser chez les autres, et chez elle-même, cet excès de vie qui est une si grande cause de malheur. Il a sans doute échappé à la jeunesse et à l'ardente vivacité de l'auteur des jugements hasardés et des expressions trop fortes. Mais, à juger généralement de la moralité de cet ouvrage, on ne peut guère lui reprocher d'autres défauts que ceux de la philosophie qui n'a pas un fondement religieux, la privation d'espérance, l'absence d'un motif hors de soi pour le sacrifice de soi-même, défauts qui sont toujours recouverts d'une teinte de sensibilité bien étrangère à cette philosophie. Madame de Staël ne laisse pas sans quelques ressources les mortels qu'elle a délivrés des passions. Elle conseille l'étude indépendamment du succès, la bonté indépendamment de la reconnaissance. Et elle indique, comme un état assez doux, après qu'on a renoncé au bonheur, cette disposition tendre et rêveuse qu'elle appelle la mélancolie. La religion a toutes ses consolations, et mieux encore. Mais la religion n'était alors ni un principe d'action, ni un secours intérieur pour Madame de Staël. Et on peut en appeler de tout ce qu'elle dit sur ce sujet à César mieux informé, c'est-à-dire à elle-même dans ses derniers écrits. Son ouvrage, Contre le suicide en particulier, est très curieux à rapprocher de celui dont il semble être le complément, puisque Madame de Staël y offre le seul remède efficace aux maux qu'elle n'avait guère fait auparavant que signaler. Toutefois, quand on a reconnu dans les passions une fièvre funeste et destructrice, dans les affections les plus innocentes une source de peines et de regrets, quand la méditation, la bienfaisance et une sorte de résignation contemplative sont devenues les seules ressources sur lesquelles on ose compter, on a fait, sans le savoir, bien des pas sur la route qui conduit au christianisme. On s'est pénétré de son esprit sans songer à sa doctrine. Et c'est là ce qui rend plus intéressant encore ce livre, d'ailleurs éminemment distingué. Si Madame de Staël n'a pas exécuté la seconde moitié de son plan, ce n'est point par légèreté. Ce n'est pas non plus qu'elle ait été effrayée des grands travaux qu'il lui fallait entreprendre. On a vu depuis ce dont elle était capable en ce genre. Selon toute apparence, elle aura senti que, malgré ses efforts, les deux parties de l'ouvrage n'eussent pas été assez fortement liées l'une à l'autre, et que la seconde aurait difficilement rempli son titre. En traitant de l'influence des passions sur le bonheur des nations, le but de Madame de Staël était de prouver, par l'histoire, cette opinion qu'elle a professée toute sa vie, savoir que les institutions politiques font l'éducation des peuples, qu'elles forment leur caractère et décident par là de leur destinée intérieure. Or, il est très vrai que le problème à résoudre dans ces institutions, c'est celui de laisser aux passions le degré d'activité qui permet un grand développement moral, sans néanmoins compromettre la tranquillité publique. Mais le jeu des passions est compris dans l'idée de la liberté. Il ne paraît pas très nécessaire de décomposer cette idée. La question serait donc rentrée dans celle de l'union de l'ordre avec la liberté. Et si l'auteur avait voulu rechercher quelle a été la passion dominante dans le caractère de chaque peuple, comme il eût expliqué ce caractère par les institutions, la passion n'aurait paru qu'accidentelle. De toute manière, les passions eussent été assez étrangères au sujet de cette partie, ou n'y seraient rattachées qu'au moyen d'une métaphysique trop déliée. Toutefois, il serait bien intéressant de traiter ces diverses questions en s'appuyant sur l'histoire, comme voulait le faire Madame de Staël. Lorsqu'elle eut renoncé à son premier plan, elle resserra, dans une introduction, toute la substance de l'ouvrage qu'elle avait d'abord projeté. Ce morceau, qui attira fortement dans le temps l'attention des penseurs, offre en effet une masse imposante d'idées. C'est une mine non exploitée, où celui qui voudra puiser trouvera d'immenses richesses.